Chapitre 26. La corbeille des premiers fruits. L'Israélite arrivait dans le pays. Et quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, et que tu le posséderas, et y habiteras, alors tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, que tu tireras de ton pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu viendras vers le sacrificateur qu'il y aura en ces jours-là, et tu lui diras, « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis arrivé dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. » Et le sacrificateur prendra la corbeille de ta main et la posera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Versets 1 à 4. Le chapitre auquel nous sommes arrivés nous présente des principes et des vérités pratiques importants. C'était seulement lorsque l'Éternel aurait introduit son peuple dans la terre promise que les fruits de ce pays pourraient être offerts. Il fallait donc nécessairement être en Canaan pour que les fruits de Canaan puissent être apportés à l'autel. L'adorateur pouvait dire « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis arrivé dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. » Il ne dit pas « Je vais arriver, j'espère arriver, mais je suis arrivé. » Nous devons savoir que nous sommes sauvés avant de pouvoir offrir à Dieu le culte qu'il attend. L'Israélite n'offrait pas la corbeille des prémices des fruits afin d'entrer dans le pays promis, mais parce qu'il y était réellement. Le rappel de l'œuvre de Dieu. Et tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, « Mon père était un Araméen qui périssait, et il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y séjourna, et il devint une nation grande, forte et nombreuse. Et les Égyptiens nous maltraitèrent, et nous humilièrent, et nous imposèrent un dur service. » Et nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre cri, et vit notre humiliation, et notre labeur, et notre oppression. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur, et avec des signes et des prodiges. Et il nous a fait entrer dans ce lieu-ci, et nous a donné ce pays, pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici. J'ai apporté les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, ô Éternel. Et tu les poseras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras de tout le bien que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné, et à ta maison, toi et le Lévite et l'étranger qui est au milieu de toi. Versets 5 à 11. Il y a ici une belle image du culte. Mon père était un Araméen qui périssait. Telle était leur origine. Il n'y avait pas lieu de se vanter pour ce qui touchait leur état naturel. Et dans quelles conditions la grâce les avait-elle trouvés? Dans la dure servitude du pays d'Égypte, gémissant au milieu des fours à briques, sous le fouet des exacteurs du Pharaon. Mais alors, nous criâmes à l'Éternel. Là était leur seule ressource. Ils ne pouvaient faire plus que de crier, mais c'était assez. Ce cri de leur impuissance était monté droit au trône et au cœur de Dieu et l'avait amené au milieu même des fours à briques d'Égypte. C'est ce que nous révèlent les paroles de grâce que l'Éternel avait adressées à Moïse. « j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là, dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici, le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. » Exode 3, versets 7 à 9. C'est de cette manière que l'Éternel avait répondu au cri de son peuple. Dans sa grâce, libre et souveraine, il était descendu pour délivrer Israël, et aucune puissance des hommes ou de Satan n'avait pu les retenir un instant de plus que le moment qu'il avait fixé. Dans notre chapitre, nous avons le résultat de cette délivrance, présenté dans les paroles de l'adorateur et les fruits de sa corbeille. « Je suis arrivé dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Et maintenant, voici, j'ai apporté les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, ô Éternel. » L'Éternel avait tout accompli, selon l'amour qui était dans son cœur et selon la fidélité de sa parole. Il n'y manquait rien. La bouche de l'adorateur proclamait la perfection de l'œuvre de l'Éternel, la corbeille de l'adorateur contenait les fruits de la terre de l'Éternel. Il n'y avait ni doute ni question. Tout était de Dieu du commencement à la fin. C'est lui qui les avait fait sortir d'Égypte et amener en Canaan. C'est lui qui avait rempli leur corbeille des fruits excellents de son pays et leur cœur de sa louange. Le culte chrétien. Était-ce de la présomption de la part de l'Israélite de s'exprimer comme il le faisait? Au lieu de dire « Je suis arrivé dans le pays », aurait-il été plus convenable pour lui de se borner à exprimer l'espoir d'y parvenir une fois ou l'autre? Est-ce que le doute et l'hésitation quant à sa position et à sa part auraient honoré davantage le Dieu d'Israël et lui auraient été plus agréables? Si un Israélite pouvait dire « Je suis arrivé dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner », pourquoi le croyant ne peut-il pas dire maintenant « Je suis venu à Jésus » ? Dans l'un des cas, c'était la vue, dans l'autre, c'est la foi. Mais l'un n'est pas moins réel que l'autre. C'est seulement lorsque nous avons la possession paisible et consciente de notre place et de notre part en Christ que notre culte peut en réalité monter au trône de Dieu et que nous pouvons servir d'une manière effective ici-bas dans le champ spirituel. Qu'est-ce que le vrai culte ? C'est simplement déclarer en la présence de Dieu ce qu'il est et ce qu'il a fait. C'est le cœur s'occupant de Dieu, faisant ses délices de lui et de tout ce qu'il a merveilleusement donné. Il faut évidemment connaître Dieu avant de pouvoir l'adorer. Chercher quelqu'un que je n'ai pas encore trouvé et adorer celui que j'ai trouvé et que j'aime sont deux choses totalement différentes. Dieu s'est révélé à nous. Il nous a donné la lumière de la connaissance de sa gloire dans la face de Jésus-Christ. Il s'est approché de nous en la personne de ce précieux Sauveur, de sorte que nous pouvons le connaître, l'aimer, nous confier en lui, nous réjouir en lui et avoir recours à lui dans notre faiblesse et dans tous nos besoins. Nous n'avons plus à le chercher en tâtonnant dans les ténèbres. Non, notre Dieu s'est fait connaître par une révélation si claire que nul ne peut s'y tromper. Le chrétien peut dire « Je sais qui j'ai cru » de Timothée 1, verset 12. Le vrai culte découle de la connaissance de Dieu. La bienfaisance. Quand tu auras achevé de lever toute la dîme de ta récolte dans la troisième année, qui est l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils la mangeront dans tes portes et seront rassasiés. Et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, « J'ai emporté de ma maison les choses saintes, et je les ai aussi données aux Lévites et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tout ton commandement que tu m'as commandé. Je n'ai transgressé aucun de tes commandements, ni ne les ai oubliés. » Versets 12 et 13. L'ordre moral de ces choses est celui que nous retrouvons en Hébreux 13. Offrons donc par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Verset 15. Voilà le culte. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Verset 16. Voilà la bienfaisance active. Il y a là ce que nous pouvons appeler le côté supérieur et le côté inférieur du service chrétien. Louer Dieu et faire du bien aux hommes. Puissions-nous manifester plus fidèlement ces deux choses? Elles vont toujours ensemble. Un cœur rempli d'adoration envers Dieu est aussi rempli de sympathie pour toutes les formes de la misère humaine. Il se peut qu'un chrétien ne possède pas de richesses selon le monde, mais qu'importe, s'il a les larmes de la sympathie, le regard affectueux, la parole de consolation. Ces choses font plus de bien à un cœur souffrant qu'une bourse ouverte. Notre Seigneur, notre grand modèle, allait de lieu en lieu faisant du bien. Mais nous ne lisons nulle part qu'il ait jamais donné de l'argent à qui que ce soit. Nous avons tout lieu de croire qu'il ne posséda jamais une pièce de monnaie. Lorsqu'il voulut répondre aux Hérodiens au sujet du paiement du tribut à César, il leur dit de lui montrer une pièce de monnaie. et quand on lui demanda de payer le tribut, il envoya Pierre le chercher dans la mer. Il ne portait jamais d'argent sur lui, et cependant, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'est ce que nous avons à faire dans notre faible mesure. L'ordre de ces choses. Remarquez l'ordre divin des enseignements donnés en Hébreux 13 et en Deutéronome 26. Le culte a la première et la plus haute place. Ne l'oublions jamais. La bienfaisance ne vient qu'ensuite. Celui qui sacrifie la louange me glorifie. Psaume 50, verset 23. Dieu se tient au milieu des louanges de son peuple. Il aime à s'entourer de cœurs remplis du sentiment de sa bonté, de sa grandeur et de sa gloire. C'est pourquoi nous devons offrir sans cesse le sacrifice de louange à Dieu. De même aussi le psalmiste dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Psaume 34, verset 1. Ce n'est pas seulement de temps en temps ou lorsque tout va bien autour de nous, mais en tout temps, continuellement. La louange et la reconnaissance doivent s'élever de nos cœurs sans interruption, sans qu'il y ait d'intervalle pour les murmures, les plaintes, le mécontentement, la tristesse ou le découragement. Il en sera ainsi un jour. La louange sera notre heureux et saint service durant toute l'éternité. Quand nous ne serons plus appelés à faire part de nos biens, qu'il n'y aura plus lieu de témoigner ou de recevoir de la sympathie, quand nous aurons dit adieu à cette scène de douleur, de mort et de désolation, alors nous louerons notre Dieu à jamais, sans obstacle ni interruption, dans le sanctuaire en sa présence. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens. L'apôtre ne dit pas « Mais n'oubliez pas d'offrir le sacrifice de louange. » Non, mais dans la pleine et heureuse jouissance de notre position et de notre part en Christ, il s'agit de ne pas oublier que nous passons ici-bas à travers une scène de besoin, de misère, d'épreuve et de tribulation. L'Israélite devait non seulement se réjouir de tous les biens que l'Éternel lui avait donnés, mais aussi se souvenir du Lévite, de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, c'est-à-dire de ceux qui, n'ayant pas d'héritage terrestre, sont entièrement dévoués à l'œuvre du Seigneur et de ceux qui manquent du nécessaire ou sont dans la peine. La sainteté personnelle. L'Israélite, ayant présenté sa corbeille et distribué ses dîmes, devait dire « Je n'ai pas mangé de ces choses dans mon affliction, et je n'en ai rien emporté quand j'étais impur, et n'en ai point donné pour un mort. J'ai écouté la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai fait selon tout ce que tu m'as commandé. Regarde de ta sainte demeure, des cieux, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu avais juré à nos pères, un pays ruisselant de lait et de miel. » Versets 14 et 15. Et Moïse ajoute « Aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances, et tu les garderas et tu les feras de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as fait promettre aujourd'hui à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, pour que tu marches dans ses voies, et que tu gardes ses statuts et ses commandements et ses ordonnances, et que tu écoutes sa voix. Et l'Éternel t'a fait promettre aujourd'hui que tu seras pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, comme il t'a dit, et que tu garderas tous ses commandements, pour qu'il te place très haut en louange et en renommée et en beauté au-dessus de toutes les nations qu'il a faites, et que tu seras un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a dit. » Versets 16 à 19. Nous avons ici la sainteté personnelle, la sanctification pratique, une entière séparation d'avec tout ce qui ne convenait pas au lieu saint et à la relation dans laquelle Israël avait été introduit par la grâce souveraine de Dieu. Il ne peut y avoir là aucune souillure. Le péché et la mort n'appartiennent pas à cette heureuse sphère dans laquelle nous avons le privilège de vivre. Ainsi, nous avons trois choses à faire. Élever nos regards vers Dieu et offrir le sacrifice de louange. Regarder autour de nous dans ce monde de misère et y faire du bien. Regarder notre propre vie intérieure et chercher à nous conserver sans souillure. Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père est celui-ci, de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. Jacques 1, verset 27.